le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le CELIF, le Salon des élus et des décideurs d'Île-de-France. Et justement, on est en compagnie de deux décideurs pour cette émission spéciale Hauts-de-Seine Habitat. En effet, on parle dans le 92, les Hauts-de-Seine, département, bien sûr, la commune du Grand Paris, élargie, une des plus petites communes, mais on va le voir, un département, plus petit département, mais très peuplé. Nos invités, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Rémi Buzeau. Bonjour Rémi.
Oui, bonjour.
Monsieur le maire de Clichy, vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et président de l'office départemental HLM Hauts-de-Seine Habitat. Mmh. On est également en compagnie de Damien Van Overschel. Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. Un petit mot justement tiens, de Hauts-de-Seine Habitat pour démarrer. Le premier bailleur social du département, une offre locative de plus de 40 000 logements répartis dans les 34 communes des Hauts-de-Seine. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc, il y a deux communes où il n'y a pas de logement de Hauts-de-Seine Habitat. Mais on trouve que la répartition est tout à fait correcte, donc aussi bien par rapport aux communes du sud du département que les communes du nord. C'est une bonne répartition.
Avec vous, nous allons voir pendant cette émission, on va définir évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Hauts-de-Seine Habitat, ses missions, ses objectifs, ses orientations, justement, comment développer eh bien, dans les communes qui ont besoin de ces logements sociaux intermédiaires, comment on améliore le parc existant, comment on favorise également la mixité sociale, hein, ça c'est un changement de prise par rapport aux années 70, là aujourd'hui on veut une ville plus mélangée, plus mixée, en tout cas plus harmonieuse. On va voir également des enjeux de rénovation. On est en plein COP26, on le rappelle. Quels sont les objectifs en termes de politique de développement durable? Et puis aussi un sujet, évidemment, on pense aux locataires, à ceux qui habitent dans ces logements. Comment améliorer leur satisfaction? Un grand plan d'action a été décidé. On va le voir ensemble. Damien, je vous passe la parole tiens, pour nous décrire ce que fait exactement Hauts-de-Seine Habitat, quelles sont sa construction, parce que c'est quelque chose de très ancien finalement.
Alors, Hauts-de-Seine Habitat a fêté ses 50 ans en 2019. Et en fait, c'est un office qui s'est construit, notamment dans la poursuite de la création des départements de Petite Couronne. Hein. Donc 92 notamment pour nous, et qui a hérité d'un certain nombre de patrimoines, notamment de l'office public interdépartemental de la région parisienne, l'OIRP, et puis ensuite qui a fusionné avec un certain nombre d'offices municipaux dans l'histoire, et pour atteindre 45 000 logements aujourd'hui. C'est un office départemental, c'est-à-dire que c'est le département des Hauts-de-Seine qui désigne notre gouvernance. Et celle-ci a évidemment été renouvelée depuis les élections au mois de juin dernier. Et Rémi Museau a pris la présidence au mois de juillet.
Voilà, donc tout nouveau président avec eh bien, des défis. Qu'est-ce que vous êtes assigné comme défis, justement, comme enjeux principaux
oui,
en tant que président?
Oui, alors donc des défis, c'est peut-être pas forcément des défis, mais j'ai une ligne de route à tenir. C'est la ligne de route du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, puisque l'office départemental est une émanation du conseil départemental des Hauts-de-Seine. La ligne à tenir, c'est celle déjà la première, c'est déjà de faire en sorte que les villes qui sont carencées en logement, puisque maintenant c'est 25%, il faut absolument avoir 25% de logements sociaux dans les villes.
25%, c'est passé de 20 à 25. Hein.
C'est 25%. Mm-hmm. Et on a d'ailleurs bien peur que ça continue d'augmenter dans ce sens, car il n'est pas dans le bon sens. Mm. Continue de nous obliger à avoir un peu plus. En tout cas, ça c'est une des lignes. Il faut absolument que les quelques communes qu'il y a soient aidées dans cette de nouveau ne plus être carencées, et surtout ne pas payer des sommes importantes de pénalités, et puis aussi en plus retrouver leur marge de manœuvre sur les permis de construire, puisqu'il faut savoir quand même que certaines villes qui sont carencées n'ont plus la maîtrise des permis de construire, ne signent plus les permis de construire, c'est la préfecture qui signe les permis de construire. Deuxièmement, on doit aussi donc faire en sorte que bien sûr trouver une amélioration dans la qualité rendue aux locataires, c'est-à-dire que dans le logement social Comme je le dis toujours, il ne faut pas que le logement social ressemble à du logement social. Il faut qu'il soit vraiment fondu dans un urbanisme urbain.
Mais c'est de plus en plus le cas quand même. Aujourd'hui, enfin, je pense au HLM et même à l'habitation intermédiaire, hein, c'est ça ? On voit qu'il y a une offre, une qualitative qui s'est énormément améliorée ces dernières années.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense que Haute-Seine Habitat a été là-dessus un moteur depuis quelques années, puisque de nombreuses opérations justement d'humanisation de ces logements ont été faites dans une mixité sociale. Mais il y a encore beaucoup à faire dans un département comme le nôtre.
Donc amélioration, on l'a dit, du parc existant, et puis la satisfaction du locataire également.
Et la satisfaction du locataire, où ça, il y a une réponse à amener immédiate. Donc là-dessus, on a, d'ailleurs, le directeur général vous en parlera, avec une action qui s'appelle Proxima, qui pourra développer un petit peu, où on a justement cette attente des locataires qui va pouvoir être servie avec des appels téléphoniques, avec une réponse rapide, etc., etc. Tout ça, c'est à mettre en œuvre, parce qu'il faut que les gens se trouvent bien dans le logement social. Moi, je trouve même que si on pouvait seulement changer aussi le nom de logement social, que quelque part, il y a autre chose à trouver, mais le fait de dire logement social, déjà, c'est comme dire habiter dans le quartier nord. C'est pareil, tout ça,
une notion un peu de déclassement.
Il y a un moment, on change des noms. Je crois que celui-là, il faudrait quand même quelque chose qui soit mis en place. Et je trouve que ce serait pour ceux qui y habitent et les villes qui en ont, ce serait tout à fait bénéfique.
Ouais, plus positif, effectivement. Bon, on va brainstormer peut-être et phosphorer cette nouvelle idée pour revaloriser tout ça. Alors, on se penche sur ces trois objectifs. On démarre avec le développement de l'offre dans les communes qui ont besoin de logements sociaux et intermédiaires. Damien, une question. Quelles sont justement ces villes carencées et pourquoi elles sont si carencées aujourd'hui ? Vous pouvez nous les citer ? Est-ce qu'il y a des bassins là vraiment sur lesquels vous avez concentré vos efforts ?
Alors, il y a une vingtaine de communes dans les Hauts-de-Seine qui sont en insuffisance de logements sociaux par rapport à la loi. Celles qui sont carencées avec un arrêté de carence préfectoral, c'est celles vraiment sur lesquelles le préfet, au-delà de la sanction, veut reprendre la maîtrise effectivement de la préemption et des droits des sols. Donc, c'est vraiment très douloureux pour les communes, d'autant que ces communes ont été urbanisées dans les années 50, 60, 70, quand l'État était à l'urbanisme. Et donc l'État demande aujourd'hui aux maires, finalement, de corriger et sanctionne les maires pour ne pas corriger assez vite ses propres turpitudes des années 70. Ouais. C'est typiquement le cas sur Boulogne-Billancourt, sur Saint-Cloud, sur des exemples de communes qui subissent la carence dure. Alors, les autres communes, il y en a donc une vingtaine, je vous l'ai dit, qui ont besoin d'un rattrapage, c'est-à-dire de produire du logement social pour rattraper un retard. Il faut à peu près globalement 4000 logements supplémentaires par an, logements sociaux supplémentaires par an dans les Hauts-de-Seine pour combler ce retard globalement.
Alors quand on connaît la rareté du foncier, en plus, c'est pas évident. Pour atteindre, on l'a dit à l'instant, 25%, c'est la nouvelle jauge. Est-ce que ces communes sont très en retard ? Elles sont à combien ? À 10%, à 15%?
Oui, il y en a qui sont à 5, il y en a qui sont à 10, il y en a qui sont à 18, il y en a qui arrivaient à 20.
Ouais.
Et
la marche est devenue plus haute.
Et la marche est revenue plus haute. Et donc, on a aussi des communes qui sont aujourd'hui entre 20 et 25, qui ont continué de faire les efforts qu'ils avaient des entreprises. Pour moi, la loi SRU, ce n'est pas une mauvaise loi en elle-même, puisqu'elle donne la possibilité de s'inscrire dans la durée, dans le temps. Là, aujourd'hui, où c'est un peu plus compliqué, c'est que l'État rigidifie sa posture et notamment sanctionne, prend en retour en fait, les droits des sols. Là, où, je pense que ce n'est pas vraiment la meilleure pratique partenariale. Nous, on intervient pour expliciter un peu notre intervention. On est un office public, donc on est le bras séculier des élus locaux sur le département et dans les communes. Et on intervient soit en cas de VEFA, de vente en l'état futur d'achèvement auprès de promoteurs pour augmenter le nombre de logements sociaux sur une opération, soit en maîtrise d'ouvrage sur des fonciers qui sont identifiés, soit encore en préemption, c'est-à-dire qu'on achète en fait du logement existant et on le transforme en logement social. Et ça, c'est très intéressant, mais évidemment, c'est très cher.
Eh oui, alors on n'apprend rien évidemment à nos auditeurs qui connaissent les prix du foncier. La petite couronne n'en finit plus d'être dans le rattrapage. Maintenant, c'est le Grand Paris d'ailleurs. Rémi Muzeau, là, il y a une équation qui est compliquée entre effectivement des prix qui augmentent, cette injonction à faire plus de, de social en attendant un meilleur mot. Comment on résout l'équation là? C'est pas évident pour les maires, vos confrères qui sont dans ces situations.
Ben évidemment, donc c'est pas évident. Et je crois que si on avait vraiment la solution idéale, je crois qu'on pourrait l'appliquer tout de suite. Moi, il y a des propositions. Moi, en tant que maire, donc je ne suis pas concerné puisque dans ma ville, j'ai 35% de logements sociaux, pratiquement 36% maintenant.
Donc à Clichy, le bon élève du département.
Oui, on peut dire que pour l'instant. Donc, et encore une fois, moi, je ne m'arrêterai pas à 35% puisque je considère que continuer à faire du logement social et surtout du logement intermédiaire, c'est une nécessité, on vient de le dire, dans les villes de la première couronne, compte tenu des prix du foncier et de l'immobilier. Il faut aussi faire du logement intermédiaire parce que, je fais un petit aparté là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cadres qui travaillent dans nos entreprises qui ont des revenus trop importants pour être accessibles au logement social proprement dit et qui ne peuvent pas acheter dans le privé parce que le privé est très cher. Donc il faut trouver ce logement intermédiaire, financé justement par du logement social, mais qui leur permettrait de se loger dans de bonnes conditions en ville. Mmh. Et ça permet comme ça d'avoir aussi une bonne mixité et de laisser des gens sur place et d'éviter les transports, etc. etc.
Voilà. Eh oui, la boucle est bouclée.
Revenir aux solutions, j'ai une solution qui est dans les villes qui sont carencées, où il n'y a plus de possibilité de foncier, des villes qui sont complètement construites, qui sont pleines comme un œuf, comme on dit. Et à ce moment-là, il faut, ce que disait notre directeur, il faut évidemment acheter dans l'ancien, dans le bâti. Il y a des immeubles encore qui appartiennent. Il faut savoir qu'encore en région parisienne, il y a beaucoup d'immeubles qui appartiennent à des familles entières, mais qui ne sont pas entretenues, parce que ces familles de succession en succession...
n'ont plus les moyens.
Oui, qui n'ont plus les moyens. Mais je vous dis qu'ils n'ont plus les moyens. Ah ouais. Et je le vois dans ma ville.
Donc c'est des friches à l'intérieur de la ville, finalement.
On peut dire que c'est des friches sur le côté du logement en lui-même. Ces logements ne sont plus dans des états de fonctionnement corrects. Ils sont beaucoup moins corrects que nos logements, nous, à Haute-Seine Habitat. Mm-hmm. Les gens vivent dans les logements qui n'ont pas la qualité que l'on peut avoir dans nos logements de Haute-Seine Habitat. Et ces logements, ces immeubles-là, il faut premièrement permettre aux maires de les acheter ou d'avoir un droit de préemption prioritaire sur ces logements. À ce moment-là, ils pourraient être rénovés par un office d'HLM. Ou alors l'État, à ce moment-là, pourrait aider les communes, plutôt que de mettre des pénalités, je pense que ce serait plus intelligent, de pouvoir aider les communes financièrement à pouvoir acheter ces immeubles et pouvoir ensuite les rénover et les mettre en accession ou pour du social ou pour du logement intermédiaire.
Ouais, préemption, ça fait toujours un petit peu peur, je pense, peut-être aux propriétaires qui nous écoutent, qui sont dans cette situation. Vous achetez au prix du marché ou un petit peu en dessous? Comment ça se passe?
Ah, vous savez, une ville ne peut pas acheter... Il n'y a pas un prix du marché pour une commune. Il y a, il y a un organisme d'État qui s'appelle donc... France Domaine et qui établit les prix. Et donc là-dessus, une ville est obligée de suivre les prix de France Domaine.
Très bien. Damien Van Overschel, on parlait justement de la friche là, sur des exemples un peu particuliers de biens qu'une famille entière peut-être ne peut plus entretenir. Mais au-delà, effectivement, dans la ville, même si elle est pleine comme un œuf, des fois, il y a d'autres types de friches. On pense par exemple à des bâtiments du tertiaire qui, là aussi, sont plus entretenus, des anciennes gares, des anciens entrepôts, etc. Est-ce que là aussi, c'est une piste pour développer de l'habitat?
Oui, absolument. D'ailleurs, les offices publics HLM, comme Haute-Seine Habitat, on a compétence aménagement. Donc, en fait, les élus locaux peuvent nous faire confiance aussi pour nous demander en fait, de faire de l'aménagement d'un certain nombre de secteurs et donc du remembrement foncier. On peut acquérir des friches industrielles et transformer le secteur en logement. On peut aussi acheter des bâtiments de bureaux et les transformer en logement. Donc on a une palette très très large en fait de capacité d'intervention.
Alors ça se fait ça de plus en plus, hein. C'est la fameuse réversibilité du bâtiment. Pas évident parce qu'on a aussi une histoire, une équation là aussi économique. Des fois ça pourrait coûter moins cher finalement de détruire et puis de reconstruire un bâtiment plutôt que l'aménager ancien bureau à cause des normes aussi. Il faut l'oublier, des normes énergétiques, environnementales qui sont de plus en plus draconiennes. Ouais. Compliqué, hein, compliqué. En tout cas, voilà pour le développement de l'offre dans les communes qui ont besoin. Donc voilà, en tout cas, vous y travaillez activement.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Que risquent les communes qui ne se mettraient pas en conformité? Est-ce qu'elles ont des délais quand justement il y a cet arrêté préfectoral ou la préfecture qui tape du poing? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. La préfecture, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la préfecture, elle, n'autorise plus le maire déjà à signer les permis de construire. Hein.
D'accord.
Donc tout ce qui est permis de construire, dans le privé comme dans le public, donc le maire et les permis de construire sont étudiés et gérés par la préfecture.
D'accord.
Et ça, pour un maire, donc c'est la sanction. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Beaucoup plus que pécuniaire.
Ouais.
Celle-là, elle est, vous aménagez plus votre ville comme vous voulez.
Ouais, et là, on perd effectivement une large prérogative.
Alors, déjà qu'il n'y a plus beaucoup de prérogatives, donc celle-là en plus. Donc, voilà.
Et puis, il y a les pénalités, effectivement, parce qu'il y a des... Comment dire, des rattrapages qui sont programmés sur 3 ans. Et tous les 3 ans, on fait le point sur est-ce que le rythme de rattrapage est suffisant, et s'il ne l'est pas, le préfet sanctionne par des pénalités la commune.
Il y a des villes déjà qui sont administrées comme ça, comme dans celles que vous avez citées.
Oui, bien sûr. Il y a Saint-Cloud, c'est sûr.
Alors, après, on accompagne des communes, nous, à en sortir, justement, ouais. Ce qu'on a fait à Asnières. Asnières avait eu un arrêté de carence.
Ouais, c'est ça.
Et on s'est mobilisé pendant toute l'année. Et à ce moment-là, le préfet a pris un arrêté pour décarencer la commune d'Asnières, par exemple.
D'accord. Voilà.
Parce qu'on a fait des opérations supplémentaires. On a travaillé avec la ville pour répondre vraiment à son besoin et éviter la sanction, entre guillemets, fatale, qui était là. Le retrait des droits des sols.
Alors, à côté du développement des offres dans ces communes, hein, on l'a compris, il y a aussi le parc existant. Oui. Deuxième objectif qu'il faut suivre. Comment améliorer ce parc? Là aussi, on est, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un changement de paradigme, hein, où auparavant, c'est vrai que la ville était cloisonnée. Un endroit pour travailler, un endroit pour habiter, et puis un endroit, malheureusement, pour avoir ces zones sociales. Du coup, aujourd'hui, on a ce changement où on veut une ville beaucoup plus mélangée. Comment on provoque, finalement, on améliore cette mixité?
Alors, évidemment, donc, on a parlé des immeubles des années 70. L'architecture des immeubles des années 70, c'est essentiellement soit des grandes tours, soit des grandes barres. Ça, ça a été fait à ce moment-là pour un souci.
Il fallait mettre beaucoup de gens au même endroit, pas cher.
Oui, on peut arriver avec des endroits avec plus de 1000 appartements. Hein. Mm-hmm. C'est pas rare qu'il peut y avoir.
Mais c'était le confort moderne à l'époque.
C'était surtout une façon de construire facilement et à bas prix.
Et rapidement.
Et à bas prix. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, les gens, c'est plus ce qu'ils recherchent. Et puis, alors, donc, déjà, premièrement, ce ne sont plus ce que les locataires recherchent, mais en plus, tous ces immeubles sont énergivores. Ensuite, il n'y a aucune qualité acoustique. C'est-à-dire que celui qui, pour être assez direct, quand il y a une chasse d'eau qui est tirée au dernier étage, on entend l'eau qui coule pratiquement à rez-de-chaussée, pour certains immeubles, encore. Donc vous imaginez qu'à notre époque, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ou alors des grandes escaliers, des grandes couloirs, où quand les locataires arrivent au bout du couloir, on l'entend passer dans tous les appartements. Là, ça, c'est terminé. Je crois que c'est un petit peu ce côté difficile à vivre. Et bon,
alors, il y avait ces bars ou ces immeubles à Clichy, sur votre
commune? Bien sûr. Et aujourd'hui, à Clichy, par exemple, dans ma ville, on fait une grosse opération justement d'amélioration de l'habitat. Et on va démolir plus de 350 logements pour ensuite, dans cet emplacement précis, refaire que 60-70 logements sociaux et tout le reste en accession, mais beaucoup moins de logements.
D'accord, moins. Ça veut dire que sur 350 ménages ou familles ou foyers, comment on fait? On les reloge ailleurs?
On les reloge dans la ville.
D'accord.
Et c'est obligatoire. Ça, la loi, elle est claire. On détruit un appartement, il faut reloger les gens dans un autre appartement.
Oui, parce que le temps que l'opération se fasse, c'est quoi, quelques années?
On va dire que ça dure 3 à 4 ans.
3 à 4 ans. Donc,
voilà. À peu près, quoi.
D'accord. Avec, évidemment, les nouvelles contraintes, donc vous le disiez, acoustiques, thermiques, énergétiques.
Bien sûr, bien sûr.
Là aussi, on est dans la... On sait qu'on est passé de la RT 2012 à la RE 2020 pour ceux qui... pour les nouveaux bâtiments. Damien, on est également en pleine COP26. Donc, ces enjeux, on sait qu'ils résonnent aujourd'hui. On peut plus faire comme avant.
Non, pas du tout. Et au contraire, il faut pas faire comme avant. Oui, tout à fait. Là, on est en train, sur des projets urbains, comme les évoque Rémi Museau, on est en train de corriger, en fait, les erreurs d'urbanisme du passé. Donc, Hauts-de-Seine Habitat est engagé sur à peu près une dizaine de sites, des grosses opérations de renouvellement urbain sur notre propre parc. Donc, on commence par reloger les locataires. On va démolir et ensuite, on va reconstruire plus de logements sur le même site. Mais en faisant revenir de la mixité par l'intérieur et aussi éventuellement en recréant d'autres endroits du logement social. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit moderne, des bâtiments passifs ou bas carbone, Donc exemplaires du point de vue de la rénovation énergétique, parce qu'on n'a plus besoin de les rénover, ceux-là, ils seront impeccables, et à proximité des transports. Donc voilà, c'est une nouvelle conception de la ville. Alors, par rapport à ça, ça, c'est quand on a des entités assez importantes, effectivement, des emprises foncières suffisantes qui nous permettent de densifier. Et dans les Hauts-de-Seine, on en a encore quelques-unes de réservoirs comme ça, fonciers. Donc, on accompagne les villes qui ont des projets urbains là-dessus. Et puis, par ailleurs, il y a les projets de réhabilitation, notamment thermique, au titre de la loi climat et résilience, hein, avec des objectifs de calendrier qui sont très serrés, puisque à 2025, tous les logements classés G...
F et G.
G 2025, ouais. F 2028, 2028, et E 2034. Ouais. Et ça vient très vite. Et on a à peu près 10% de notre parc qui est concerné. Non, pas 10%, je dirais 20% de notre parc.
Ah oui, autant que ça.
Oui, tout à fait. On a des cités entières, en fait, qui ont été construites dans les années 30, qui sont concernées par le E.
Ouais. C'est terrible, parce qu'en vous écoutant, et pour boucler ce qu'on vient de dire sur justement les villes carencées, on a l'impression que là, on est dans une course en avant, une fuite, où à peine elles vont réussir, peut-être certaines villes ou certaines communes, à atteindre ce quota que bah, la loi va passer, ou du moins le DPE, les diagnostics énergétiques, etc., vont déclasser le logement qui ne pourra plus, on le rappelle, hein, être loué. Et là, du coup, il faudra prévoir ou rénover. Alors, il y a des aides quand même, hein, effectivement, qui sont là de l'État. Est-ce que c'est le cas aussi pour les communes, pour vos territoires?
Alors, on n'est pas sur le MaPrimeRénov. Hein,
non, il n'y a pas de ça, MaPrimeRénov au niveau du département, ça n'existe pas
encore.
Non,
on a sur le plan des prêts de la Banque des Territoires au logement social, il y a des prêts effectivement avantageux sur tout ce qui est réhabilitation thermique. On a des prêts zéro, à taux zéro, des choses comme ça. Mais globalement, le compte n'y est pas, si vous voulez. Tout ça, ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le département nous accompagne par des subventions. Tout ça coûte très cher.
Je rappelle, Hauts-de-Seine Habitat, on parle dans cette émission spéciale du premier bailleur social du département du 92. Plus de 40 000 logements, ça veut dire quand vous nous dites quand même 10 voire 20%, c'est quand même jusqu'à 8 000 logements qui sont dans la ligne de mire là, qu'il va falloir rénover.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Oui, on a par exemple une cité entière à Suresnes, classée, hein, avec des bâtiments... c'est une cité exemplaire de Henri Sellier, qui est le fondateur du logement social en France. 3200 logements.
Tous à rénover.
Qui sont tous en E.
Ouais.
Et donc, ils doivent tous être rénovés thermiquement, alors qu'on ne peut pas toucher la façade. Donc, on va être obligé de faire de la réhabilitation thermique par l'intérieur. Mm-hmm. Donc, si on veut faire ça, il faut reloger les gens.
Oui, puisqu'ils ne peuvent pas être là pendant les travaux.
Pendant les travaux. Donc, ça va être un... Et ça, pour 2034, il faut qu'on l'ait fait. Sinon, on ne pourra plus louer ses logements.
Bon, ça laisse un peu de temps, mais pas tant que ça, pour s'organiser.
C'est très vite. Hein,
Et ça arrive très vite. Donc, politique en matière de développement durable, évidemment. Heureusement, les matériaux s'améliorent. Heureusement, on fait des progrès aussi dans l'installation. Il y a une petite situation un peu critique. C'est quand même, ça vous concerne pas directement, mais la pénurie de main-d'œuvre. Matériaux d'abord, en ce moment, on espère que ça soit temporaire, on va voir. Mais surtout aussi de main-d'œuvre. Est-ce qu'on aura suffisamment, finalement, de bras pour organiser tout ça?
Alors, de matériaux, on en subit déjà les conséquences.
Vous le voyez déjà?
Oui, bien sûr. À la fois sur les composants, sur des ascenseurs, par exemple, des composants électroniques qui viennent de Chine, sur lesquels on n'arrive plus à s'approvisionner. Donc, des délais de remise en service des ascenseurs qui sont très longs. Il faut savoir qu'on a 995 ascenseurs.
Ouais, qu'est-ce qu'ils vous font, vos locataires là? Ils prennent leurs jambes.
On est obligé de les accompagner. On met un service de portage en pied d'immeuble pour aider les gens à porter leurs courses au cinquième, par exemple. Donc, on a des services à la personne qui sont organisés là-dessus. Mais sinon, on a également de la pénurie sur le bois. On a des chantiers où on fait du bois, mais il y a aujourd'hui pénurie sur le bois. Et effectivement, la main-d'œuvre qui n'est pas suffisamment qualifiée et qui fait qu'effectivement, dans nos travaux d'entretien notamment, on le voit bien, la qualité n'est pas au rendez-vous auprès des prestataires. Donc on cherche aujourd'hui à monter en exigence dans les prestations fournies au domicile de nos locataires, notamment par les prestataires techniques.
Oui.
Je rajouterai même d'ailleurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre et il y a une pénurie de matériaux, je veux dire, mais en plus, ça entraîne maintenant une augmentation des prix des entreprises. Dans les appels d'offres, vous pouvez vous trouver avec des appels d'offres infructueux par rapport à l'estimation qui était faite parce que les prix augmentent régulièrement.
Vous voyez, on parlait tout à l'heure de défis, ils sont là les défis, hein. ils arrivent très très vite. Alors, dernier point, effectivement, dans votre plan d'action, augmenter la satisfaction du locataire en termes de réactivité, de proximité avec ce plan d'action que vous avez nommé Proxima avec les entreprises. Expliquez-nous.
Alors, Proxima, je crois que Damien Van Verschel va rentrer un peu plus dans le détail. Mais ça, c'était une demande, du conseil départemental, mais surtout des maires des 36 communes ou des 34 communes où il y a du logement de Haute-Seine Habitat. Et bien évidemment, les maires, c'est les premiers qui sont à l'écoute des occupants de ces logements, et ce sont les premiers qui reçoivent les demandes des uns et des autres, des demandes qui ne sont pas forcément des demandes qui sont extraordinaires. C'est pas, on ne demande pas des choses qui soient insurmontables, mais c'est des petites réparations du quotidien. C'est, on l'a dit tout de suite, l'ascenseur qui est en panne depuis 3 jours. C'est la personne qui a, par exemple, qui vieillit et qui est depuis 20 ans dans son logement, qui a une baignoire et qui ne peut plus enjamber la baignoire, il faut lui mettre une douche.
À l'italienne.
Voilà, c'est ça. Vrai. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut répondre immédiatement. Pas forcément répondre sur le fait de faire les travaux tout de suite, mais qu'il y ait déjà une prise en charge du dossier, etc. C'est le fait que la porte est cassée depuis maintenant 8 jours et que tout le monde peut rentrer, au point de vue insécurité, dans le logement, etc. etc. Et ça, avec le service qui a été mis en place par Haute-Seine Habitat, ce service Proxima, donc là-dessus, va pouvoir répondre d'une manière assez efficace dès le début de l'année prochaine. C'est en train de se mettre en place, c'est pas simple. Il faut aussi retrouver des nouveaux cadres dans cette affaire-là, des nouveaux responsables qui soient capables de pouvoir répondre à cette nouvelle organisation. Il va falloir aussi faire une large information des locataires, une large formation de tous les gardiens d'immeubles qui sont investis d'une autre manière que jusqu'à maintenant. Mais je crois que Damien Van Verschel peut vous en dire un peu.
Alors Damien Van Verschel, justement, comment prendre en charge toutes les demandes, en tout cas le faire savoir dès 2022, ça passe déjà par l'accessibilité téléphonique, être prêt à prendre 95% des appels avec des délais. Bon, ça ressemble aux engagements d'un bon service client.
C'est ça, en fait. L'idée, c'est de s'engager avec la qualité de service,
des indicateurs,
garantir sur la base d'un pilotage par indicateur la qualité de service. On a fait une démarche à la demande des élus effectivement faisait remonter les insatisfactions des locataires qu'on avait bien vu aussi en direct. Mais donc on a monté tout un programme stratégique d'entreprise sur la base de la qualité de service. Son nom, c'est Proxima, parce que ça porte à la fois la proximité, ce qui est très important pour nous, bailleur social, office public HLM, la proximité avec nos locataires et avec nos élus, mais aussi Proxima, c'est Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil, c'est-à-dire c'est l'idée d'avoir un cap sur lequel on va chercher à aller, en fait, on a un endroit qui nous guide, en fait. On vise la proximité et l'excellence, en fait, de la qualité de service aux locataires. L'objectif, c'est pour nous d'être un acteur apprécié, reconnu par les élus, par les locataires, et aussi comme employeur par les collaborateurs et par les partenaires, comme un bailleur social exemplaire pour la qualité de service, de la gestion de proximité en particulier, avec un personnel motivé, compétent, etc. L'une des premières actions qu'on veut mettre en place, c'est la création de la fabrique de la satisfaction, dans ce qu'on appelle la Satisfactory, qui doit être un centre de relations clients, en fait, et qui va piloter la satisfaction des locataires. Donc ça va être un service qui va être en débordement des appels d'accueil. Donc on a les directions de proximité qui reçoivent des appels téléphoniques. Aujourd'hui, ils ne prennent que 40% des appels. L'objectif, c'est que les 60% qui débordent aujourd'hui et qui sont perdus soient acheminés dans un centre dédié où on va enregistrer chacune des demandes. Donc 100% des appels ayant réponse, 95% en premier appel et 5% rappelé dans l'heure. Toutes les demandes seront enregistrées. Donc on a également une application mobile qui va nous permettre d'enregistrer où que l'on soit, que ce soit en gardien, en proximité, au siège, chez un élu, on aura tous capacité à enregistrer en fait des demandes des locataires et ensuite d'organiser la traçabilité. Alors d'abord trier pour savoir quel est le bon interlocuteur à envoyer, mais aussi assurer la traçabilité avec des enquêtes de satisfaction régulières à terme, pas à terme, c'est déjà en place, les enquêtes de satisfaction, pour que dès que l'intervention a eu lieu au domicile du locataire, il nous fasse savoir s'il est content ou pas. Ça, c'est très important qu'on ait des outils professionnels issus de l'expérience client et de la relation client dans le logement social, parce qu'en fait, on s'aperçoit que nos locataires ont raison, et ils sont exigeants et ils ont raison de l'être.
Et puis, surtout, on est dans un monde ouvert, en compétition avec ce qui se passe dans le monde du privé, donc on ne comprend pas finalement pourquoi les services de l'État ne seraient pas au niveau. Donc, vous l'avez dit, accessibilité téléphonique 95%, rappeler en moins d'une heure ceux qui ont laissé un message, répondre aux mails en moins de 48 heures et au courrier en moins de 10 jours.
Ça sera un exploit, parce que pour l'instant, on est plutôt à 20 jours. Ouais. Mais il faut y aller. Je veux dire, aujourd'hui, on est débordé par les écrits parce qu'on ne répond pas au téléphone et qu'on ne répond pas aux mails. Alors, du coup, ça se traduit par un courrier qui passe ensuite en lettre recommandée. Et on est noyé par des courriers.
Et sûrement par de multiples demandes qui se surajoutent, alors que ça serait traité peut-être plus simplement en une fois.
Ça peut être un courrier qui concerne, enfin, trois courriers qui concernent la même demande. Alors que si on l'a traité au téléphone dès la première fois, je pense qu'on n'aura pas les courriers. Donc, on va réduire le flux de façon considérable.
En tout cas, toutes les sollicitations, tracées et engagement de réponse, assez rapidement.
Tout à fait.
Les comptes rendus, les indicateurs seront transmis aux différents interlocuteurs.
Alors, on a mis en place un système de management visuel au sein des directions de proximité pour qu'ils aient les statistiques et qu'ils sachent la satisfaction de leurs locataires, mais on souhaite aussi venir vers les élus pour leur donner cette information également, et que les élus aient quasi temps réel les informations de la satisfaction des locataires, à la fois la typologie des réclamations qui sont faites, mais aussi la satisfaction de leurs locataires. Bon, parce qu'on partage les mêmes clients, entre guillemets.
On imagine Rémi Museau, un grand tableau, grande télé avec tous les indicateurs qui s'affichent en temps réel, c'est formidable. En tout cas, blague à part, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digitalisation. On voit aussi qu'elle apparaît à grands pas dans la vie des mairies, des collectivités locales. De plus en plus, vous utilisez ces outils aussi.
Oui, tout à fait. Non, mais là, c'est des outils qui sont... Les services informatiques de la mairie, c'est des services qui sont sollicités quotidiennement. Je voulais rajouter pour les travaux aussi, ce que n'a pas évoqué Damien Vollevershel, mais il le sait aussi, c'est que quand les travaux seront exécutés, quand les petites tâches sont exécutées, ce sera contrôlé derrière. Parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, toutes ces tâches sont faites par des entreprises. C'est des entreprises qui... Il y a des marchés publics. Mais comme c'est une multitude de petites tâches, il faut derrière, évidemment, le locataire n'est pas forcément suffisamment technicien pour apprécier la qualité des travaux qui ont été effectués. Et là-dessus aussi, on a des reproches, on a des remontrances, on a des travaux qui ne sont pas complètement terminés ou qui se termineront peut-être un jour. Et ça, là-dessus aussi, c'est en place. Ça va boucler la liste de tout ce qui a été évoqué précédemment. Il y aura un contrôle systématique de tous les travaux qui vont être effectués.
Oui, et ça, c'est pas mal. Pour faire suite au programme Proxima, vous promettez également le principe de symétrie des attentions, c'est-à-dire que les engagements seront pris aussi par rapport aux équipes, et notamment en termes de formation.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, pour que nos locataires soient plus satisfaits, il faut qu'ils soient bien accueillis. Pour qu'ils soient bien accueillis, qu'ils soient bien traités, qu'on ait de la bienveillance vis-à-vis d'eux, qu'ils la ressentent, encore faut-il que les acteurs eux-mêmes, nos collaborateurs, se sentent pris investis, en compte, reconnus, investis. Et donc, l'idée, c'est par la symétrie des intentions, à chaque fois qu'on prend une disposition en faveur en fait, du locataire, qu'on réfléchisse à créer aussi une disposition en faveur du salarié. Alors, ça peut être... C'est l'amélioration de la qualité de vie au travail, en réalité, qu'on cherche par là. Et donc, ça va être, par exemple, un parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs. Ça va être également des entretiens individualisés à des étapes clés, en fait, du parcours au sein de l'office. Ça va être des engagements hiérarchiques également sur... Là, on dit... chaque appel sera pris à 95% et sinon on rappelé dans l'heure. Bon, ben là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas une demande qui remonte par la voie hiérarchique qui ne peut pas être traitée dans la journée. Et donc, c'est des obligations de résultat. Mais aussi, on veut raccourcir les chaînes hiérarchiques. c'était une demande que j'ai entendue là, de la part de Georges Siffredi, président du département, et de Rémi Museau, le président de l'Office, c'est de simplifier notre organisation territoriale et raccourcir les chaînes hiérarchiques pour être plus rapide, plus opérationnel. Voilà. Donc ça fait partie en fait du projet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos collaborateurs.
Bien sûr. Et puis en plus, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait, d'avoir des responsabilités, de les prendre aussi, les assumer, plutôt que de tout remonter à monsieur le maire, hein, dont la journée ne fait que 24 heures, on répète. On le rappelle pour tout le monde. Très bien, voilà pour le programme Proxima. Il nous reste quelques minutes. En conclusion, messieurs, d'une manière générale, si on ouvre un peu le débat, amélioration du patrimoine, hein, c'est vraiment ce qui est important. Assurer à vos locataires des logements de meilleure qualité et bien sûr un habitat durable dans la ligne, hein, de ce qui se passe actuellement. C'est vraiment l'objectif, Rémi Museau.
Ah, tout à fait. Ça, c'est l'objectif du département de Hauts-de-Seine et c'est aussi l'objectif de Hauts-de-Seine Habitat. L'amélioration, on vient d'en parler sur l'amélioration thermique, mais aussi sur l'amélioration donc, urbanistique, c'est-à-dire la qualité des ouvrages qui sont mis en œuvre. Il y a des matériaux de façade. On n'en est plus aux simples peintures sur la façade et le fait de changer...
C'est plus cosmétique, là, maintenant. Il faut que ça dure 25-30 ans.
Bien sûr, parce qu'avant, c'était un coup de peinture dans les cages d'escalier. On change les revêtements de sol rapidement. Non, c'est plus ça. Maintenant, on fait dans du durable, dans des matériaux qui sont maintenant pérennes. On fait pas... Quand on fait une rénovation, c'est une rénovation qui doit durer pendant plusieurs dizaines d'années.
Ouais. Vous parlez d'ailleurs de saut énergétique, hein, carrément. C'est-à-dire, il faut que ça dure 25 à 30 ans. C'est vraiment une réflexion stratégique.
Voilà.
Damien,
vous
avez adopté d'ailleurs en juin 2019 le plan stratégique de patrimoine, PSP. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
On est en train de le réviser parce que depuis, on a acquis du patrimoine à la ville de Paris. On a acheté 700 logements à Asnières. On a également acquis du patrimoine à la ville de Rueil, 400 logements. Donc, on a étoffé notre patrimoine. 85% de notre PSP, plan stratégique de patrimoine précédent, a été accompli, notamment en termes de performance thermique. Mais le nouveau, en fait, avec les nouvelles exigences légales, nous oblige à reconsidérer en fait ce plan. On a de nouveaux projets de rénovation urbaine qui sont sur la table. Il faut qu'on continue d'accompagner les villes. C'est vraiment la fonction d'un office public d'être l'outil des communes, hein, pour faire leur politique du logement social. Il n'y a pas d'autre outil en fait, hein, sur la table en fait, ou dans l'univers, que celui-là, qui est vraiment un outil très performant, avec une gouvernance dédiée des élus locaux.
Et ben voilà, on en sait un petit peu plus, hein, grâce à vous, messieurs, sur les ambitions, les enjeux et même les défis, hein, de Hauts-de-Seine Habitat. Rémi Museau, je vais vous laisser conclure, si vous le voulez bien, sur, ben voilà, on a bien détaillé la feuille de route. Est-ce que tu as des échéances qui pourraient bouleverser ça, ou c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, finalement, quels que soient les élus?
Oui, bah alors, c'est quand même une nouveauté. Maintenant, je crois que c'est quelque chose dont on a pris conscience. Avant, on se contentait donc d'avoir du logement social et on gérait finalement les attributions du logement social. On était plus sur les attributions. Maintenant, on est sur la qualité de vie dans le logement social. Alors, je rajouterais, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, il y a aussi, on ne l'a pas évoqué, l'accession sociale du logement. Et ça, on a une autre politique maintenant. Autant on a vu l'accession sociale en essayant de mettre dans une opération existante la vente de logements, autant maintenant on est en train de réfléchir à Hauts-de-Seine Habitat sur la construction d'un immeuble en accession au logement social, mais un logement en totalité, une construction en totalité, sortir des gens du logement existant qui deviennent propriétaire dans une construction proprement dite. Et ça, c'est quand même nouveau, c'est quand même un investissement important, mais qui va permettre de libérer du logement social en permettant à certains locataires de devenir propriétaires dans les Hauts-de-Seine, ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils étaient dans du logement privé. Ça, il faut le rajouter, c'est aussi des objectifs très importants. Ouais. Quand on est Hauts-de-Seine Habitat, donc maintenant, à une feuille de route, quelque chose d'important, sur lequel je pense que toutes les équipes sont motivées, et le département lié aussi beaucoup.
Merci en tout cas, noble cause, nobles objectifs. Merci à Rémi Museau. Je rappelle que vous êtes donc maire de Clichy, vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et président de l'office départemental HLM Hauts-de-Seine Habitat. Merci également à son directeur général, Damien Van Overschelde. Merci messieurs et à très bientôt sur Radio Territoria.
Le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.